toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Apple a présenté des résultats trimestriels historiques. La pomme a engrangé un chiffre d'affaires de 124 milliards de dollars fin 2024, du jamais vu. Ça en fait des chiffres nets vendus, hein. Pour autant, est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Tim Cook? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple veut faciliter l'achat de ses produits avec un crédit à 0% et DeepSeek secoue très fortement l'industrie de l'intelligence artificielle. Nous sommes le samedi 1er février, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer. Alors, ça a été une semaine très mouvementée pour l'industrie technologique, sauf pour Apple, qui a battu un nouveau record. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien?
Salut Stéphane, oui ça va très bien et toi?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tu es content de pouvoir regarder bientôt un match de MLS sur Apple TV+, un bon fan de foot que tu es?
Oh là là, il va falloir que j'ai une bonne insomnie pour arriver à cette idée-là. En plus, ça doit passer à des heures pas possibles, j'imagine.
Ça sera le dimanche, ouais, j'ai pas calculé. Mais alors pour ceux qui suivraient pas trop la MLS, c'est le championnat nord-américain de foot, hein, je précise. Mais effectivement, ça ne va pas forcément tomber à des très bonnes heures pour nous autres Européens, ouais. De toute façon, on a pas mal d'autres matchs de foot à regarder en ce moment.
Oui, non, il y a beaucoup de choses à faire.
Alors, je le disais en introduction, jeudi soir, Apple a présenté ses résultats financiers pour le compte du dernier trimestre 2024. Il s'agit de bons résultats, très bons même, puisque l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires record de 124 milliards de dollars. C'est 4% de plus sur un an. Le bénéfice, pour sa part, s'élève à 36 milliards de dollars. C'est en hausse de 7%. Christophe, qu'est-ce qui a porté Apple ce trimestre?
Des records. Alors, j'ai trouvé une image pour expliquer les résultats trimestriels d'Apple. En fait, Apple, c'est un peu comme un perchiste qui, à chaque meeting, essaie de battre son propre record du monde en sautant un centimètre plus haut que la dernière fois. Mmh. Alors, on voit bien qu'au fil des années, la marge de progression d'Apple est un peu plus faible. Et donc là, Apple a, donc, comme je disais, battu son record. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un petit peu le monde à l'envers de la façon dont elle y est arrivée. Parce que les ingrédients, finalement, sont assez différents de ce qu'elle a d'habitude de faire. Parce que non, ce n'est pas grâce à l'iPhone dont les ventes sont en légère baisse malgré la commercialisation de la nouvelle gamme qu'Apple a réalisé ce record. Il y a un petit souci quand même avec la gamme iPhone, hein, donc la baisse est encore très légère, mais... On parle quand même depuis quelques temps un peu d'iPhone fatigue et bah, on la sent quand même bien là. Alors Tim Cook a cherché à être plutôt rassurant. Il nous a d'ailleurs expliqué que dans les pays où Apple Intelligence avait été lancé, il parlait de les ventes d'iPhone étaient un peu plus fortes que dans les autres pays. Alors il partait des ventes d'iPhone depuis la sortie d'iOS 18.2, ouais. Qui commençait à apporter pas mal de nouveautés par rapport à Apple Intelligence. Mais bref, c'est pas ça. Alors, tandis que l'iPhone grimace, le Mac et l'iPad sont en pleine forme. Ces deux divisions affichent des progressions de 15%. C'est quand même pas tous les jours.
Ouais, c'est un peu surprenant. Pour le... ouais.
Voilà, ouais. Alors, pour le Mac... et d'ailleurs, les dirigeants d'Apple ont été assez clairs, hein, ils l'ont dit clairement, c'est grâce au MacBook Air dont le succès ne se dément pas. Et ils ont ajouté que les nouveaux Mac présentés fin octobre, donc à savoir le Mac Mini, le MacBook Pro et on imagine dans une moindre mesure l'iMac, se vendent également très bien. Donc ça, enfin, on le dit depuis quelques temps, hein, il y a un sort de renouveau concernant le Mac voilà, qui perdure et c'est tant mieux.
Et puis le MacBook Air, on peut dire aussi qu'il n'a pas été mis à jour depuis... enfin, la dernière mise à jour, c'était en début d'année dernière. Donc, c'est une belle performance pour lui au dernier trimestre 2024. Ouais.
C'est ça, mais je pense que concernant le MacBook Air, Apple joue énormément, on va dire, sur le paramètre prix. Ouais. On se souvient qu'on a même eu à Noël des MacBook Air M1 qui étaient vendus à peine...
À 800 euros,
ouais. Même un peu moins parfois. Mm-hmm. Hein, donc voilà, ça joue quand même. Alors, moi, ce que j'ai trouvé le plus surprenant, c'est quand même l'iPad. On pensait que le rebond, il serait très limité dans le temps suite à la commercialisation des nouveaux iPad Pro, il y a déjà presque un an. Ce qui est intéressant, et j'espère qu'Apple en prendra bonne note, c'est que le moteur de la croissance provient des modèles entrée de gamme et de l'iPad Air. Alors, voilà, j'espère vraiment qu'Apple a compris que le potentiel des iPads à 4 chiffres était quand même très 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 limité. On va pas s'étendre sur les services, ça marche bien comme toujours. Il n'y a pas de problème. De mon point de vue, ces trimestriels, il y a quand même deux déceptions. Cela fait quasiment 2 ans que la division autres produits est à l'arrêt. Alors, tu sais, cette division autres produits, c'est un peu la division fourre-tout d'Apple, où il y a Beats, les AirPods, les Apple Watch, le Vision Pro, enfin vraiment tout.
Le HomePod,
ouais. Exactement, ouais. Donc, cette division recule de 1,7%. Et pourtant, Apple a quand même sorti pas mal de nouveautés pour les fêtes de fin d'année. Il y a eu quand même les AirPods 4.
Ouais.
L'Apple Watch Series 10 qui était quand même présenté comme un redesign assez important. Puis il y avait même le Vision Pro qui avait été, dont la commercialisation avait été ouverte à de nouveaux pays. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de détails dans cette division et c'est bien dommage. Enfin voilà, comme je disais, elle est fourre-tout. Donc si ça se trouve, c'est peut-être une gamme de produits qui plombe le tout. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même l'impression qu'Apple court après un nouveau best-seller. Voilà, parce qu'on rappellera que les deux derniers produits qui ont vraiment fait un hit dans cette division, ce sont les AirPods Pro 2 et l'Apple Watch Ultra. Voilà, ça commence un petit peu à dater.
Bah, il y aurait justement les AirPods Pro 3 cette année, peut-être en fin d'année. Ouais.
Oui, oui, clairement, je pense qu'Apple joue gros. Voilà, c'est sans doute l'un des, le modèle d'AirPods le plus populaire. Mmh. Et il est quand même vendu assez cher. Et d'après ce que... Il sera... Enfin... Vu les nouveautés qui sont, entre guillemets, enfin, qui se murmurent, notamment avec l'ajout de la mesure de la fréquence cardiaque, on peut penser qu'Apple va être tenté d'ajouter quelques dizaines d'euros à sa paire d'écouteurs.
Ah, clairement, oui.
Alors, l'autre point de déception, c'est la Chine. Apple n'y arrive pas. Voilà, ils ont annoncé une baisse des ventes de 11%. Alors voilà, Tim Cook un petit peu cherche à dire non, mais c'est parce qu'il y a eu aussi des changements en ce qui concerne la gestion des inventaires qui, en fait, la baisse serait plutôt de l'ordre de 5%. Mais voilà, ça fait maintenant, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça fait quasiment 2 ans que le chiffre d'affaires en Chine ne cesse de baisser. Et il est bien loin le temps où la Chine faisait jeu égal avec le marché européen en matière de chiffre d'affaires. J'y vois clairement simplement 2 raisons. Son offre est tout simplement inadaptée au goût du consommateur chinois. Mmh. Et la deuxième, je pense qu'il y a quand même malgré tout un peu de géopolitique là derrière. Hein. On a quand même entendu à maintes et maintes reprises que le gouvernement chinois décourageait la vente, enfin l'achat de produits Apple. Et je pense qu'il y a également un petit effet à ce niveau-là.
Tu l'as dit, les ventes d'iPhone stagnent. Alors, elles sont à un très haut niveau, mais bon, voilà, ça stagne. Alors, pour vendre plus d'iPhone, eh bien, Apple a ressorti une vieille technique. Comme la pomme ne veut pas écorner son image de marque en faisant de vulgaires promotions, la technique consiste à faciliter les achats en permettant aux clients d'étaler leur paiement. Autrement dit, c'est le retour du crédit à 0% sur l'Apple Store. Par exemple, au lieu de dépenser 1 229 € d'un coup pour un iPhone 16 Pro, avec seulement 128 Go de stockage, je le rappelle, hein, ça fait cher. Vous pouvez dépenser 51 € par mois pendant 24 mois avec ce fameux crédit à 0%. Apple collabore avec CTLM sur ce financement et en fait, on a appris que les intérêts habituels sont à la charge d'Apple. Est-ce que c'est une bonne affaire, ce crédit à 0%?
Payer un téléphone en fractionné sur 2 ans, ça me dit un truc, c'est marrant. Ah oui, c'est ce que faisaient les opérateurs de téléphonie mobile. alors moi, je suis quand même pas très fan perso des histoires de crédit. Reste que j'ai comparé ce que faisaient justement les opérateurs de téléphonique. J'ai notamment été sur la page de Bouygues. Alors c'est beaucoup plus alambiqué. Mmh. On a l'impression qu'on va se faire avoir. On nous avance des chiffres très petits, mais il y a quand même de gros taux d'intérêt et puis il y a une somme à ajouter à un moment donné, soit au début, soit à la fin de l'achat. Donc tout ceci me laisse dire que l'offre d'Apple est finalement pas si mal, elle mérite d'être claire.
Et puis chez les opérateurs, tu payes aussi un forfait qui est très cher, dont tu n'as pas forcément besoin, ou tu peux trouver avec les nombreuses promotions des forfaits qui sont beaucoup moins chers.
Ouais, alors ça se discute. Il y a aussi, malgré tout, et c'est là où j'allais en venir, c'est que l'offre, enfin, pour parler du défaut de l'offre d'Apple, c'est que le prix de vente en Apple Store est quand même bien élevé. On peut quand même facilement économiser 100 € sur le prix de vente d'un, d'un iPhone en le prenant soit sur Amazon, soit à la Fnac, soit nu chez un opérateur. Mmh. Et il y a par exemple SFR qui est assez agressive avec SFR Red. Tu peux avoir quand même des fois 100 à 150 euros de ristourne sur l'achat d'un iPhone en prenant un forfait chez SFR Red. Mais voilà, l'avantage, c'est que les forfaits chez SFR Red sont sans engagement. Donc voilà, tu peux avoir un forfait relativement compétitif et qui te permet d'avoir voilà, un iPhone à un prix légèrement inférieur. Donc ce qui fait que, ouais, je suis mi-figue, mi-raisin, mais je sais qu'en tout cas que, enfin, vu la, on le voit quand on publie ce type d'articles, ils sont souvent très populaires. Donc ouais, ça veut dire qu'il y a sans doute un très fort intérêt pour ces offres-là, ouais. Mmh.
On va terminer le tour de l'actu avec le sujet qui a agité toute l'industrie tech cette semaine. Je parle bien sûr de DeepSeek, cette start-up chinoise qui semble remettre en cause l'hégémonie américaine sur l'intelligence artificielle générative. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, DeepSeek a récemment sorti deux modèles de langage très performants. Il y a DeepSeek V3, qui rivalise notamment avec GPT-4o et DeepSeek R1. Alors ça, c'est un modèle qui est conçu pour le raisonnement complexe et qui est comparable au modèle O1 d'OpenAI, ce qui se faisait de mieux jusque-là. Ces modèles ont créé un grand vent de panique dans l'industrie pour plusieurs raisons, la principale étant que la startup affirme avoir entraîné un de ces modèles pour moins de 6 millions de dollars. Alors c'est une somme vraiment ridicule en regard des investissements habituels. C'est une déclaration aussi qui soulève beaucoup de doutes, mais ça n'a pas empêché Nvidia de perdre des centaines de milliards de valorisation boursière. Est-ce qu'il s'agit d'un tournant dans l'industrie de l'IA ?
Oui, jusqu'au prochain qui arrivera dans 2 ou 3 semaines. Non, voilà. Essayons effectivement de faire un petit point. Alors tout d'abord, il y a, entre guillemets, la tempête boursière. Alors pour le moment, pour moi, c'est clairement une tempête dans un verre d'eau. Alors, il faut prendre un peu de perspective. En un an, la valeur boursière de Nvidia a doublé. Dans ces conditions-là, surtout à l'approche de la publication des résultats trimestriels, les investisseurs en profitent pour prendre leurs bénéfices. Donc, quand il y a une nouvelle comme ça, ils ne se posent pas de questions. On vend, on prend ses bénéfices et ça permet d'ailleurs à d'autres de se positionner. Il n'y a absolument rien d'anormal. Business as usual. Alors, la situation de Nvidia, elle évoluera peut-être plus franchement dans un sens ou dans l'autre en fonction de ses résultats financiers. Le jour où les analystes auront l'impression que la bulle d'IA, de l'intelligence artificielle, sera en train d'éclater, alors là, les choses prendront une toute autre tournure. Alors, on va en revenir à DeepSeek. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le timing de l'histoire de cette affaire. Presque un petit peu en mode complotiste. Hein. Mais je me demande quand même à quel point ça a été calculé. La semaine auparavant, on a eu le droit au couronnement de Trump, à la toute-puissance américaine qui allait marcher sur le monde avec ses giga data centers, avec son plan d'investissement de 500 milliards de dollars. Ils étaient sûrs de leur force et voilà, rien n'allait les arrêter. Et là, cette affaire arrive comme une douche froide. Il y a beaucoup d'inconnus, mais elle vient quand même instiller un gros doute. Est-ce que les Américains font vraiment la course en tête dans le domaine de l'intelligence artificielle ? C'est ça qui est intéressant finalement dans ce domaine qui est voilà, en pleine évolution, ce marché qui est en train de se structurer, c'est que les places ne sont pas encore figées, pas encore. Mmh. Le timing de présentation de DeepSeek, je le trouve d'autant plus suspect qu'on est en plein nouvel an chinois, donc hein, c'est comme si une entreprise française venait à faire... comme ça, une annonce majeure, un 13 ou un 14 août au soir. Bref, on a quand même vraiment l'impression que l'annonce a été faite pour embêter les petits copains américains. Alors, à quel point c'est une révolution, c'est quand même difficile à dire, car comme souvent avec la Chine, tout est opaque. Le chiffre de 6 millions de dollars paraît, comment dire, je sais pas, il paraît complètement bidon, on va le dire comme ça. On lit que les équipes de développement auraient eu accès à des cartes Nvidia récentes, qu'ils ne se seraient pas gênés pour tricher en siphonnant les données d'OpenAI. Donc voilà, c'est le chiffre en vérité est sans doute beaucoup plus élevé.
Les modèles de DeepSeek sont ouverts, donc on peut les réutiliser et les modifier, ce qui fait d'ailleurs aussi beaucoup de mal à OpenAI qui a des modèles propriétaires. Mais il y a beaucoup de choses qui sont opaques autour de ça.
Donc voilà, alors C'est trop tôt pour le dire, mais il y a une idée que j'aime bien en tout cas, c'est est-ce que les États-Unis n'ont pas finalement aidé la Chine en ajoutant des restrictions sur les puces destinées à l'entraînement des intelligences artificielles? Peut-être que sous l'effet de la contrainte, les développeurs chinois ont été poussés à être plus malins et à davantage optimiser leur code que leurs concurrents américains pour qui c'est open bar, hein, l'argent coule à flot, donc peut-être qu'on est un peu moins dispendieux à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien l'idée en tout cas. Bon, alors, pendant ce temps, voilà, petit retour sur Terre, on a eu une belle idée marketing avec Lucie, c'était tout mignon, tout joli. Mais voilà, dans les faits, ça a été quand même un joli fail. Notre nouvelle intelligence artificielle était quand même incapable de mener à bien une simple opération mathématique. Donc voilà. Voilà où on en est. C'est pas très glorieux, mais voilà, c'est peut-être pas trop tard.
On va suivre DeepSeek, hein, parce que c'est pas fini, évidemment. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ces modèles chinois. On va suivre ça avec attention au cours des prochaines semaines. Merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.